des étudiants. Puis à la fin, ils ont parlé des trois meneurs de la Fédération Autonome des Ouvriers. Je me suis dit que c'était fini. J'étais leur porte-parole. Et en effet, ma photo a été diffusée en premier. Je me suis demandé où fuir et que faire. Je me suis dit qu'un filet était tendu autour de moi et que je n'en réchapperais pas, où que j'aille. J'ai donc fini par prendre la décision de me rendre. Je voulais arriver devant l'entrée principale de la police à Pékin. Je m'étais juré d'aller en prison de ma propre initiative. J'étais préparé à tout. J'avais imaginé comment on me torturerait, comment on me fusillerait, la façon dont les soldats pointeraient leurs fusils sur moi. Sur le chemin du commissariat, je me suis dit que je ne sortirais pas vivant de prison.
J'ai été détenu dans trois prisons différentes. D'abord dans la prison des gardes à vue. Il se peut qu'elle n'existe plus aujourd'hui. C'était un lieu des plus indignes. Il ne fallait même pas avoir commis un crime pour être enfermé là. Il faisait sombre et froid, et c'était sale comme une porcherie.
C'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, là, faut...
ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Canu, 102.2, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi soir.
Et ce soir, on va vous parler à l'international de la répression du mouvement social au Maroc, avant de s'intéresser aux attentats de Londres, puis à la sortie de Macron à propos des Comores. Pour l'actu nationale, on va parler des nouvelles techniques des keufs pour empêcher les migrants d'arriver à Calais, de la répression d'une meuf qui s'est défendue contre un agresseur. Et puis de la loi travail que nous prépare Macron pour cet été par ordonnance. Et on reviendra sur le feuilleton Hanouna, hein, qui n'en finit pas. au local et ben, on va discuter de du rassemblement antifasciste qui a eu lieu vendredi et de la répression qui s'en est suivie, mais aussi du rassemblement en solidarité avec les chauffeurs Ouibus en grève. Et ce soir, on a un dossier sur le Mexique.
Voilà, donc on enchaîne et on commence par l'international et donc la répression de ce mouvement au Maroc qui dure depuis déjà 7 mois. Alors pourquoi ce mouvement dure depuis 7 mois et notamment dans la région du Rif, dans le nord-est du Maroc, le 30 octobre 2016, pour rappel, un vendeur de poissons a été broyé par une benne à ordures après la confiscation de sa marchandise par la police. Donc ce vendeur de poissons tentait de récupérer ses poissons mis par la police dans une benne à ordures et s'est fait immédiatement broyer. Dès le lendemain, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans plusieurs villes du pays, notamment dans le nord-est du pays, mais pas uniquement. Il y en a eu aussi à Casablanca et à Marrakech, qui est suffisamment rare pour le souligner. Les manifestants scandaient en disant de l'État, eh bien, vous êtes des criminels, des assassins, on n'humilie pas le peuple du Rif continuellement. Alors, petit rappel, hein, le Maroc c'est une monarchie constitutionnelle avec à sa tête donc un roi Mohamed VI. C'est un régime particulièrement autoritaire et surtout particulièrement inégalitaire. Hein, 60% des Marocains vivent sous le seuil de pauvreté. 5 millions de personnes vivent avec seulement 2 dollars par jour et une grande partie n'ont pas accès à l'éducation, ont des graves problèmes d'alimentation, d'accès aux soins, etc. Le Maroc c'est le pays, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique à côté du Zimbabwe, du Mali, de la Somalie ou du Gabon. Et c'est le plus pauvre du Maghreb. La discrimination chez les femmes marocaines, elle est très très forte. 16% des mineurs femmes subissent un mariage forcé et précoce. La plupart sont privées d'éducation. 83% des femmes en milieu rural sont analphabètes. Alors, ce joli tableau, eh bien, pendant ce temps-là, le pouvoir, il se pavane dans ses palais royaux. Et en ce qui concerne le Rif, donc la région du Nord-Est où le mouvement perdure depuis 7 mois, la misère socio-économique est encore pire qu'ailleurs, notamment grâce à un certain Hassan II, le père de Mohamed VI. Et c'est aussi une région qui a toujours été un très fort foyer de contestation et de rébellion marocaine, que ce soit contre les colons espagnols ou en 2011 pendant le mouvement du 20 février. Alors depuis ce mouvement, depuis 7 mois, eh bien, des milliers de manifestants continuent de manifester dans le nord-est du pays. La répression policière est particulièrement brutale et beaucoup d'interpellations ont eu lieu, notamment des leaders de ce mouvement nommé Al-Iraq, la mouvance, qui anime donc cette contestation. Ces manifestations, elles sont généralement suivies d'affrontements avec les forces de l'ordre et de nombreuses interpellations. Et ces dernières semaines et ces derniers jours, 20 membres de la mobilisation ont été présentés au parquet de Casablanca et placés en détention pour atteinte à la sécurité intérieure. Donc on souhaite bon courage à ces manifestants qui ne s'arrêtent pas, qui ne lâchent rien depuis 7 mois et solidarité donc face à la répression.
On va donc à Londres où un nouvel attentat a eu lieu samedi soir. Donc une camionnette fonce en zigzagant sur des piétons, puis des passants sont attaqués au couteau. Bilan, 7 morts et une cinquantaine de blessés samedi soir, en plus des 3 assaillants abattus par la police. Au bilan également de l'attentat terroriste, puisque c'est l'État islamique qui l'a revendiqué le lendemain soir, 12 arrestations et des perquisitions. L'attentat intervient 5 jours après, à 5 jours des législatives au Royaume-Uni et moins de 2 semaines après l'attentat suicide qui a fait 22 morts à Manchester. Rappelons qu'à la veille du premier tour des présidentielles françaises, 2 attentats terroristes, donc, dont un déjoué mais sur lequel l'État ne manqua pas de communiquer, étaient intervenus, rappelant bien les électeurs à leurs responsabilités. D'un côté, l'organisation impérialiste État islamique et une stratégie qui vise à créer 2 camps. D'un côté les musulmans, de l'autre les non-musulmans. Une entreprise encouragée par les politiques sécuritaires occidentales dirigée à l'encontre des populations considérées comme musulmanes. De l'autre, les États impérialistes occidentaux, eux, qui poursuivent leur manœuvre impérialiste, bien sûr, et tentent d'asseoir leur mainmise sur les matières premières au prix de guerres meurtrières faites aux populations locales. Les mêmes États bourgeois occidentaux qui traitent sur leur territoire les populations issues de l'immigration coloniale comme des populations colonisées et n'hésitent pas à profiter de l'inévitable attentat pour durcir le ton, décréter des états d'exception et exploiter le mythe de l'ennemi intérieur comme stratégie de pouvoir. La peur du terrorisme, l'état d'urgence comme moyen de contenir les populations et le mouvement social. La désignation de l'autre comme outil de division de classe. Tout va bien. Impérialisme contre impérialisme, tout s'imbrique, s'auto-alimente en parfaite harmonie. Et quand des bombardements frappent des civils à Mossoul, quand de jeunes Français se font péter à Paris ou à Londres avec une ceinture d'explosifs, tout ce petit monde complice se frotte les mains car le projet de chacun fait son chemin. Peinard. La barbarie s'installe au prix de la vie des populations, des travailleurs, des musulmans, des plus fragiles. Et à mesure qu'on s'habitue insidieusement aux bombardements chez eux, aux attentats chez nous, les impérialismes réalisent leur projet. Faire rentrer dans les mentalités ceux « eux contre nous ». À eux contre nous, bien loin hélas de celui de la lutte des classes, mais c'est bien leur projet.
Et dans la catégorie lutte des classes, on va parler de Macron qui s'est permis une sortie d'un bon goût absolu à propos des Comores. Donc on écoute tout de suite sa punchline digne du GUD.
Il y a des tapouilles, il est quoi ça, quoi ça?
Non, non, c'est un maillot, c'est quoi ça, quoi ça?
Par exemple, c'est un connaisseur.
Mais le quoi ça, quoi ça pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent.
Nouveau drame de l'immigration à Mayotte avec le naufrage d'un Kwasa Kwasa, 6 morts et 10 disparus.
Un nouvel accident de Kwasa Kwasa, ils étaient 43 Comoriens.
Le naufrage d'une barque d'émigrés clandestins en provenance des Comores.
Mais le Kwasa Kwasa pêche peu, il amène du comoréen. C'est différent. Voilà, la tapouille, c'est le crevettier. Ouais.
Qu'est-ce qu'on régale. Ah, qu'est-ce qu'on se marre avec
Moi,
Macron.
J'ai pas compris.
Eh bien, les Kwasa Kwasa, ce sont des embarcations de fortune que les migrants empruntent pour rejoindre Mayotte au péril de leur vie. Donc, les migrants des autres îles des Comores. Donc, ces traversées auraient causé entre 7000 et 10000 morts depuis 1995, selon un rapport du Sénat qui date de 2012. Donc, on imagine que les chiffres ont dû bien gonfler depuis. Alors pour rappel, les Comores, c'est un archipel qui est constitué de 4 îles au large du Mozambique. Jusqu'en 1974, l'ensemble de l'archipel était une colonie française. Après consultation, seule Mayotte est restée sous le giron français. Et donc, assez logiquement, l'île est devenue une terre de migration pour de nombreux Comoriens qui fuient la misère. Parce qu'en plus des difficultés héritées de l'impérialisme français, l'insularité ne permet pas aux Comores d'assurer sa propre autosuffisance alimentaire. De plus, la pénurie alimentaire y est organisée afin d'assurer des prix élevés. Donc, à l'exception de Mayotte, le taux de scolarisation est très faible, le travail des enfants relativement répandu, la santé très précaire, et en fait, une grande partie des revenus sont assurés par la diaspora comorienne à travers le monde. Bref, c'est loin d'être un paradis. On imagine bien que les Comoriens ne quittent pas leur pays par gaieté de cœur et s'embarquent comme des milliers de migrants partout dans le monde sur ces fameux Kwasa Kwasa pour tenter leur chance ailleurs, là où le pillage des ressources et de la main-d'œuvre a permis d'assurer une rente et leur donne l'espoir de conditions matérielles d'existence plus décentes. Donc en l'occurrence, la France et là son 101e département, Mayotte. Donc l'histoire coloniale de la France et cette petite sortie de notre chef de guerre nous rappelle qu'il est bien le président de l'impérialisme français avec tous les relents racistes et méprisants que ça implique. C'est bien de le rappeler parce que Macron n'avait pas vraiment fait de la guerre impérialiste un axe de sa campagne, mais depuis le début de son quinquennat, ce qu'on constate c'est qu'il est particulièrement virulent sur ce terrain-là, qu'il se comporte vraiment en chef de l'impérialisme, et donc on le dira jamais assez, mais mort à la guerre et mort à l'impérialisme et à tous ses représentants.
Eh oui.
On est toujours sur Radio Canu, la
plus rebelle des radios, et c'est un mot incroyable. Donc, on va parler d'une nouvelle technique des flics à Calais pour les empêcher de venir ou revenir, notamment depuis le démantèlement de la jungle et du camp de Grande-Synthe. Alors, les flics, qu'est-ce qu'ils font? Ils interdisent et ils empêchent la distribution de repas et d'eau organisée le midi par plusieurs associations humanitaires ou des collectifs de solidarité et d'entraide. La distribution de 18h, donc ça c'est depuis mercredi, hein. Donc celle de 18h reste autorisée mais elle est très encadrée et les CRS obligent les migrants à aller vite et se disperser le plus vite possible. Bref, leur foutre un bon gros coup de pression en plus de les faire crever la dalle. Et ce donc depuis plusieurs jours. Alors, déjà en mars, la très connue Natacha Bouchard, vous savez, cette sénatrice maire de Calais, qui a pondu un certain nombre de lois, notamment des lois anti-migrants, des lois anti-squat, notamment une l'année dernière. Sympa. Donc une meuf, vraiment une bonne copine, quoi, une pote, avait pondu un arrêté interdisant les distributions de nourriture. Mais ces salauds de gauchistes de juges du tribunal administratif avaient cassé l'arrêté, estimant qu'ils privaient...
Encore un coup du syndicat de la magistrature.
Ah non, mais ils n'arrêtent pas, hein, c'est vraiment insupportable, hein, surtout sur les Républicains. Donc que ces arrêtés privaient une population en grande précarité d'une assistance et alimentaire vitale. La maire de Calais a pété son câble derrière, a réagi de manière très offensive et virulente contre les juges. Ce qui n'a pourtant pas empêché une certaine Marine Le Pen de faire 37% de voix au premier tour et 57,5% de voix au deuxième tour. Alors jeudi, plusieurs assos ont écrit à un certain Emmanuel Macron pour lui demander de relâcher la pression policière, sans réponse pour le moment, étonnamment. Depuis, par exemple, les flics ont verbalisé un camion de l'association L'Auberge des Migrants, car son camion de distribution de repas, attention, était en surcharge à cause d'un bidon de 100 litres d'eau pour donner à boire aux migrants. Les bénévoles ont donc été obligés de vider le contenu sans pouvoir en faire profiter les migrants morts de soif, en pleine chaleur. Selon le préfet, donc le ministère de l'Intérieur, qui s'appelle Gérard Collomb pour rappeler donc Emmanuel Macron, il s'agit d'éviter la formation de nouveaux campements à Calais. Les migrants du coup s'énervent et ils ont bien raison, ils ont... Par exemple, fait un barrage enflammé sur l'autoroute A16 dans la nuit de mercredi à jeudi pour ralentir les camions. Et ce n'était pas arrivé depuis octobre 2016 et le démantèlement de la jungle.
J'ai envie de rajouter que GG, là, Gérard Collomb, chef de la police, eh ben, c'est pas la première fois qu'il coupe l'eau à des gens qui squattent et qui sont dans la plus grande précarité, puisqu'il l'avait fait cet été, l'été dernier, pour les Roms qui étaient au niveau du jardin des Chartreux. Et que la maire du premier arrondissement avait été passée pour essayer de leur remettre les lances à eau et avait pas réussi, en fait, puisque GG avait décidé que c'était une façon de lutter. Voilà. Mais que ça va forcément, vu que c'est une de ces techniques.
Ça marche, on a soifé les gens.
On s'attend à de nouvelles techniques bien sympathiques.
Voilà.
Pour,
c'est pas loin.
Merci,
ça s'appelle de la torture aussi. Hein.
C'est ça.
Une autre actu au national. Une meuf a été condamnée en février 2017 pour s'être défendue lors d'une agression sexiste et lesbophobe à 5 mois de prison avec sursis et 14 000 euros de dommages et intérêts à verser à son agresseur, à qui elle a pété le nez en se défendant. Donc, je relate vite fait l'histoire. Elle était serveuse dans un bar parisien, fréquenté majoritairement par des personnes féministes et lesbiennes. Un soir, à la fin de son service, un groupe vient traîner devant le bar. Elle leur demande gentiment d'aller un peu plus loin, expliquant que la police verbalise facilement les établissements pour tapage nocturne. Et le groupe, et particulièrement un des mecs, commence à se tendre. Elle tente calmement de les éloigner encore une fois. Le mec commence par lui sortir « T'auras qu'à te pencher pour passer le balai, tu verras peut-être mieux et au passage tu me suceras ». Elle tente quand même de calmer
encore
le jeu, méga patiente, mais le mec enchaîne les « Eh, mais vous les gouines, vous aimez trop faire les bonhommes » ou encore « Ah, mais la petite pute, elle croit qu'elle peut faire peur à qui ?» Il finit par lui balancer un coup de pied chassé dans le genou, auquel elle réplique par un coup de tête et un coup de poing. Puis elle rentre dans le bar en refermant la porte derrière elle pour arrêter l'histoire. Le groupe reste encore une bonne quinzaine de minutes à taper sur la porte du bar en hurlant, en l'insultant, en lui proférant des menaces de mort. Et une semaine après, c'est un officier de police qui se rend au bar pour la convoquer, elle, le lendemain, le mec ayant porté plainte. Là-bas, elle demande à porter plainte contre ce mec pour violence volontaire et incitation à la haine au regard d'une orientation sexuelle. Et c'est là qu'elle apprend qu'il a le nez cassé et 14 jours d'ITT, qui seront réévalués à 21 jours plus tard. Donc c'est cet argument que les policiers ont d'ailleurs utilisé pour ne même pas enregistrer sa plainte à elle, sans lui dire, ce qu'elle a découvert que des mois plus tard au tribunal, lors de son procès. Et donc, à son procès en avril 2014, le procureur, bon représentant de la justice sexiste, lui a sorti quelques perles du genre « Pourquoi ne pas avoir frappé sur les parties basses de Monsieur A ? Où avez-vous appris à vous battre comme ça ? Ce n'est pas commun pour une fille. » Ou encore « Si vous vous sentiez réellement en danger, pourquoi ne vous êtes-vous pas enfui ?» Sachant qu'il y avait 6 personnes qui l'encerclaient à ce moment-là, en plus, mais bon. Malgré un casier vierge, la juge la reconnaît, le ou la juge d'ailleurs, je ne sais pas, la reconnaît coupable, la condamne à 5 mois de prison avec sursis et 14 000 euros de dommages et intérêts à verser au mec qui a demandé une expertise médicale qui explique, cette expertise, qu'il est traumatisé car il ne peut pas parler de cette agression à son entourage. Non mais c'est pas une blague. Du fait que son agresseur était une femme, du fait que ses amis se moquent de lui. Donc une fois de plus,
c'est la bonne nouvelle du truc quand même.
Une fois de plus, la justice patriarcale envoie un beau signal aux agresseurs sexistes et lesbophobes. Vous pouvez continuer à les insulter et à les frapper tranquille. Si elles se défendent, elles seront condamnées. Si vous voulez donner un peu de thunes en solidarité avec celle qui est appelée D sur Internet pour participer au paiement des 14 000 euros, il y a un pot commun qui a été créé, https://www.lepotcommun.fr/po/lc4q94KL.
C'est bon, c'est bon, un stylo et un papier, ça tombe bien, nickel.
L'adresse sur le blog, écouter le podcast. Sinon, hein.
on mettra l'adresse, le lien sur le site du Canu Info.
Voilà. Blog, il y a un Tumblr Justice pour D où vous avez l'histoire avec plus de détails encore. Voilà.
Et nez à casser toujours, puisqu'il y a de multiples nez à briser, à écrabouiller, à réduire. Voilà. Dans son édition d'aujourd'hui, Le Parisien a révélé un document gouvernemental donnant les grandes orientations de la réforme du travail promise par Macron pour cet été et qui doit être imposée via des ordonnances selon un calendrier déjà largement révélé par Mediapart au cours de la semaine passée. Cette loi Travail 2, donc, doit passer au pas de charge et la ratification être achevée au mois de septembre. Le document, fuité aujourd'hui, qualifié au détour d'une de ces belles lignes de premier brouillon d'avant-projet de loi, a donné lieu depuis hier à pas mal d'échanges, de débats et à de premières salves de communication gouvernementale. Aux premières critiques bien méritées contre un projet particulièrement dégueulasse, on y reviendra, le gouvernement a répliqué que le document fuité n'était qu'un document de travail réalisé avant les rencontres avec les organisations syndicales et patronales et avant même l'annonce de la composition du gouvernement. Malgré le démenti du gouvernement, tout porte à croire pourtant que ce document annonce bien le contenu probable des ordonnances, ou en tout cas représente l'idéal gouvernemental en la matière. Il est douteux que les négociations, limitées dans le temps comme sur le fond, viendront à bout de ne serait-ce qu'une partie des mesures les plus détestables de ce torchon.
T'es trop méchant, franchement, moi je fais trop confiance à la CFDT et tout.
Et justement, rappelons-nous le précédent de la loi El Khomri et de l'efficacité fameuse des jaunes à limiter la casse et à améliorer le projet de loi.
Et la syntaxe du projet de loi.
On ne saura probablement pas précisément donc d'où vient la fuite, cabinet de la ministre du Travail, du Premier ministre, du Président, mais il apparaît évident que celle-ci est la première offensive sur le terrain de la propagande du gouvernement contre les droits des travailleurs. L'avant-projet se présente ainsi comme un document plus politique que technique, je cite, dont on nous précise qu'il a largement été rédigé à partir des discours d'Emmanuel Macron, ce qui expliquerait son style débile, à la syntaxe approximative et au jargon tout à fait intolérable. L'exposé des motifs, donc l'introduction de l'avant-projet de loi, est ainsi déjà un véritable bréviaire de la pensée libérale, une série de poncifs et de lieux communs pour Madelin en culotte courte. Outre le rappel du mot-valise en carton-pâte flexi-sécurité dès les premières lignes, on apprend que le marché du travail est injuste. Il est injuste parce que coupé en deux. Mais rassurez-vous, la ligne de partage n'est pas entre ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui vendent leur force de travail, mais entre les odieux privilégiés qui bénéficient d'un CDI et ceux qui en veulent un. Travailleur, En Marche t'explique la vie. Ce n'est pas le patron qui t'exploite ou te condamne au chômage, c'est l'autre travailleur, ce salaud, qui te nargue avec son SMIC et son super comité d'entreprise. Vous l'aurez compris, les constats exposés dès l'introduction de l'avant-projet de loi sont d'une pauvreté confondante, tant sur la forme que sur le fond. Je ne résiste pas, d'ailleurs, à quelques citations. Ce qu'il faut, c'est une évolution radicale du modèle. Cette évolution radicale, ce n'est pas la fin du travail. Le travail change, et il faut accompagner ce changement. Plus loin encore, on lit...
Tu limites bien.
Tant.
C'est Jean-Claude Van Damme, c'est ça.
On pourrait s'adonner à un quiz, effectivement. Puisque plus loin encore, on lit « Le travail est la bataille la plus importante ». Parce que dans nos sociétés, quand on a l'âge de travailler, c'est le travail qui permet de vivre. Le travail, il est au cœur de nos sociétés. C'est pas moi qui... J'invente pas la syntaxe, hein, c'est vraiment écrit comme ça. Le travail, il est au cœur de nos sociétés. Parce que ce qui nous permet d'éduquer nos enfants, de profiter de l'existence, d'apprendre, mais c'est aussi le travail qui permet de vraiment choisir sa vie, de sortir de sa condition, d'avoir une reconnaissance, une place dans la société, une vie sociale, des liens... Ça vous situe un peu le problème.
Ce qui, ça permet aussi aux capitalistes de se faire tout un tas de thunes sur
le travail. Arrête avec ton bréviaire marxiste. Tu vas pas nous avoir avec ton idéologie là. Le travail est beau, la vie est belle. Mais le code du travail, les conservateurs qui défendent le salaire minimum, le temps de travail, les indemnités de licenciement, tous ces vilains le gâchent. Dire à un caissier, à un chauffeur de poids lourd, à un salarié de McDo que le travail permet de profiter de l'existence, vous en conviendrez, ça ressemble quand même à un petit foutage de gueule. Surtout quand on sait la composition du gouvernement et des cabinets des différents ministres, plein à ras-bord d'énarques, de serpillères habituées à essuyer les sols des CA du CAC 40, ou de vieux restes pourris de 30 années et plus de gouvernements capitalistes successifs. Mon frigo sent moins mauvais, et pourtant, je vous assure, il doit rester quelques trucs pas très nets. La première partie du document, fuité par Le Parisien, donc tout entière consacrée au cadre idéologique des ordonnances, montre assez combien ces gens sont nos ennemis. Combien ils le savent également. Ils nous jettent à la face leurs grandes phrases managériales, leurs conneries de développement personnel pour étudiants en finance, mais toute cette poésie de l'existence définie par le travail, du choisir sa vie, de la liberté de l'individu, toute cette poésie donc disparaît quand on lit le détail des ordonnances promises. Et ce qui apparaît à la place de la poésie, ce sont des intérêts, les intérêts de la bourgeoisie. Car voici les mesures qui seront prises. Elles sont citées à l'article 2 de l'avant-projet. Les indemnités pour licenciement abusif seront plafonnées. Petit souvenir de la première mouture de la loi El Khomri, vous vous en souvenez. Le référendum d'entreprise sera généralisé, et donc avec lui le chantage à l'emploi. L'accord d'entreprise primera sur l'accord de branche, qui lui-même primera sur la loi. Les instances représentatives des salariés vont toutes être supprimées. CHSCT, délégués du personnel, CE, au profit d'une instance unique, dont les contours sont assez flous et dont on se doute bien qu'elle fera appel à plus encore de bureaucratie et moins encore de temps pour évoquer les droits des travailleurs. Le pouvoir des conseils d'administration va être profondément renforcé et la co-gestion avec elle. Et enfin, l'État va prendre le contrôle de l'assurance chômage. Les ordonnances donc vont renforcer le renversement de la hiérarchie des normes introduite par la loi travail, ou plutôt poursuivie par la loi travail, livrer encore plus les salariés au chantage à l'emploi. Les ordonnances vont réintroduire des mesures rejetées même par les syndicats les plus jaunes, dont le plafonnement des indemnités. Elles poursuivent et radicalisent ce contre quoi nous nous sommes battus l'an dernier. Nous n'avons, au fond, pas le droit de perdre. Et il va falloir renforcer les syndicats et mouvements de classe. Parce que si on compte sur les appareils de la CGT, de Sud ou de Force ouvrière, si on compte sur les bureaucrates, on aura déjà perdu. Il faut participer évidemment à la manif du Front social le 19 juin, mais pas seulement. Nous allons devoir construire une véritable résistance, et ce, dès cet été. Ne comptons pas sur la France insoumise et sur sa stratégie de l'échec pour mener une hypothétique guérilla parlementaire à la rentrée. Lisez vous-même l'avant-projet de loi, surveillez les négociations, intervenez dans les sections syndicales, à l'assemblée de lutte, il y a urgence. Et la lutte à venir peut être réjouissante si nous nous donnons en tant que classe les moyens de la victoire.
Ouais.
Ouais.
Mais grave.
Bref, on est dans la merde.
On va faire un petit tour à la télé avec Hanouna, auteur du récent canular homophobe et qui pour une fois déclenche une réelle polémique relayée par les médias. Donc le Cyril Hanouna a rencontré suite à ce canular qui fait un peu polémique, a rencontré la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes, Marlène Schiappa. Donc c'est quand même l'État, hein, c'est une secrétaire d'État, c'est comme une ministre. Et elle voulait lui faire part des chiffres sur les suicides ou les agressions de jeunes homosexuels pour qu'ils prennent conscience des difficultés de la communauté LGBT. Apparemment, d'après ce qu'on en sait, ils ont eu une discussion cordiale, hein, je cite, et la ministre a insisté sur le fait qu'elle était contre le lynchage médiatique, donc le lynchage médiatique à l'encontre de Cyril Hanouna,
le pauvre petit.
Mais que l'animateur avait une responsabilité importante. Ah bon, la secrétaire d'État a donc insisté sur le fait qu'il était important que Touche pas mon poste, donc l'émission d'Hanouna, rende les blagues sexistes et homophobes graves et honteuses. Donc on n'est pas contre les blagues sexistes et homophobes, il faut qu'elles soient graves et honteuses.
Elle a proposé un peu moins grave et un peu moins honteux, et puis c'est bon.
Elle a donc proposé une solution fabuleuse à Cyril Hanouna d'avoir un buzzer
bip,
sur le plateau.
Bip,
qui signalerait.
Si le buzzer est lié à un dispositif de type taser.
Donc un buzzer qui signalerait tout franchissement de ligne jaune. Alors ligne jaune, voilà, donc c'est elle a employé le terme ligne jaune. Rappelons qu'un secrétaire d'État, c'est l'État, et que la charge de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est d'autoriser le sexisme et l'homophobie à la télé moyennant un buzzer. Tout va bien.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu.
La plus rebelle des radios.
102.2.
Et on passe à l'info locale. Donc on en avait parlé lundi dernier. Le GUD a ouvert il y a maintenant une dizaine de jours un squat dans le 2e arrondissement, rue du Port du Temple. Squat donc réservé aux Français de souche, bien entendu. et donc contre l'instrumentalisation pardon, de la misère par ces nervis d'extrême droite et à des fins racistes, un rassemblement a été organisé ce vendredi et qui a réuni environ 250 personnes. Donc comme d'hab, on s'est tapé un bon gros dispositif policier. Hein. Les fachos sont d'ailleurs restés terrés dans leur bunker.
Et protégés.
Et protégés, effectivement. Planqués derrière donc, ce dispositif. Et comme ils peuvent tranquillement débiter leur délire raciste en toute impunité, nous par contre, on s'est tapé des fouilles à tous les endroits. Donc les gens qui étaient sur la place, aux abords de la place en arrivant. Et deux camarades ont été interpellés au début du rassemblement, c'est-à-dire en fait avant que le rassemblement débute. Le premier pour port d'armes, en l'espèce un couteau. Il a été relâché dimanche après 48 heures de garde à vue éprouvante et convoqué au tribunal le 27 juillet à 14h pour donc détention de port d'armes. Et le deuxième copain s'est fait interpeller lui pour également pour port d'armes, en l'occurrence des pétards
et des fumigènes.
Et outrage, le premier aussi pour outrage d'ailleurs, et outrage, alors à savoir que les keufs ont pété le mégaphone qu'il avait avec lui quand il s'est fait interpeller, donc on imagine qu'effectivement ça l'a peut-être un peu énervé, mais quoi qu'il en soit, il n'a pas été relâché à l'issue de ses 48 heures de garde à vue. Un juge des libertés de la détention particulièrement bien intentionné a probablement considéré que des fumigènes c'était trop dangereux et que du coup il a décidé de l'envoyer à Corba pour des chefs d'inculpation qui par ailleurs sont quand même plutôt
très
légers.
Faibles, ouais.
Et donc il passe demain en comparution immédiate, alors on ne sait pas s'il va la refuser, mais en tout cas il y a un appel à rassemblement demain à 13h30 devant le tribunal de grande instance de Lyon, rue du Guesclin, place Guichard, métro place Guichard. Donc on appelle à être hyper nombreux à ce moment-là. Cette interpellation, elle est politique, elle était clairement ciblée, le camarade en question est connu des services de police voilà, c'est vraiment l'acharnement policier à son égard. Donc c'est important de montrer que face à cette répression politique, on est nombreux, qu'on est déterminés et qu'on le soutiendra jusqu'au bout.
Et puis surtout, il risque d'y rester un petit peu, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que demain, ça va être prise la décision de s'il reste ou non en prison, et que c'est possible qu'il y reste. Et donc, il faut être présent, faire du bruit et avoir une réponse très politique par rapport à cette interpellation et cette incarcération très politique aussi.
Et par ailleurs, il est en grève de la faim depuis le début de sa garde à vue, parce qu'effectivement, c'était quand même lui qui portait l'intégralité des tracts et le méga de l'organisation. Donc, la dimension politique de cette arrestation, elle était évidente dès le départ. Et il est en grève de la faim depuis donc maintenant 72 heures.
Ouais.
Donc voilà, on salue sa détermination, on espère le voir dehors demain et aller manger un kebab avec lui en sortant du tribunal. Et on appelle vraiment à être extrêmement nombreux quand les FAF peuvent ouvrir des squats ou ils appellent directement à la discrimination raciale. On ne peut pas laisser faire cette répression-là, et c'est une attaque contre nous tous, cette attaque-là. Voilà.
On va revenir très vite sur la grève des conducteurs Ouibus, là, qui sont donc du coup en grève pour la deuxième semaine. Et lundi a eu lieu un rassemblement sur leur piquet de grève, à savoir à la gare SNCF de Lyon-Perrache. Et donc il y avait une trentaine de personnes qui sont venues prêter main forte avec des banderoles et en distribuant des tracts aux usagers de la gare. Ça a été fait dans une très bonne ambiance. Il y a eu au début il y a eu des tracts qui ont été fournis donc par les grévistes. Il a fallu en retirer au moins 4 fois parce que du coup ça partait vite, et puis voilà, il y avait quelques slogans et puis des banderoles. Les grévistes Ouibus continuent aujourd'hui et à partir de demain la grève devient nationale. Donc les 3 gares Ouibus à Paris, Lille et Lyon seront en grève suite à un préavis national déposé par la CGT. On leur souhaite bon courage, vous aurez des nouvelles la semaine prochaine parce que je pense que ça va se poursuivre et j'espère que ça va aller assez loin. Et on va passer au dossier de ce Canu Info.
Et oui, c'est une émission spéciale Mexique aujourd'hui, donc on écoute tout de suite A la Huelga.
A la huelga, compañeros, no vayáis a trabajar. Dejar quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo por el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y la besada, desde el torno y el telar, ya van los hombres del pueblo a la huelga general. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos.
Et donc oui,
c'était un cut oui, serré là,
sec. Aujourd'hui, on a la chance et le plaisir d'avoir deux camarades du Mexique qui nous rendent visite et qui vont nous parler de deux sujets d'actualité mexicaine qu'ils ont choisis. Donc Nathalie, membre de Trenzando Resistencias, un collectif d'autodéfense féministe, nous parlera des féminicides au Mexique avec un fait divers récent à la UNAM, une université. Et Ivan de la Juntas Defensivas Universitarias, une organisation révolutionnaire étudiante, nous parlera de la lutte des travailleurs agricoles de San Quintín. On va commencer avec Nathalie.
Bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Hola.
Que tal?
Ok, donc je vais commencer. Je vais vous parler d'un fait divers en fait, donc qu'il y a eu à la UNAM et qui relance un peu donc le débat et les controverses sur le féminicide. Donc en français, on connaît peut-être pas ce mot. C'est un terme d'Amérique latine, féminicidio, pour parler de l'assassinat d'une femme pour être une femme. Donc les faits, c'était le 3 mai dernier, donc il y a un mois, on a découvert le corps de Leslie Berlin Osorio, une jeune femme de 22 ans, qui a été étranglée par un câble dans une cabine téléphonique. À ça, la UNAM a sorti un communiqué en disant qu'elle condamne toutes les activités délictueuses sur son campus. Voilà, c'est intéressant. Et ensuite, la police informe de l'avancée des enquêtes. Donc elle nous dit qu'elle n'était pas étudiante à la UNAM, elle était étudiante au lycée qui fait partie de la UNAM, mais qu'elle devait des matières, donc en fait, c'était pas vraiment une étudiante. Qu'elle et son copain, qu'elle avait des problèmes d'alcoolisme, et qu'elle et son copain se sont drogués et ont ingéré de l'alcool sur le campus avant d'avoir été retrouvés. Donc ça nous donne beaucoup d'informations. Donc ils ont privilégié la piste du suicide, ce qui est donc assez scandaleux. À ça, on peut voir quoi ? On peut voir la difficulté de l'UNAM pour reconnaître rien que le terme féminicide, qui est un terme revendiqué par les féministes. Donc le meurtre d'une femme pour être une femme, au lieu de dire toute activité délictueuse. La stratégie aussi de l'UNAM de dire c'est l'extérieur qui est venu à l'intérieur pour commettre ce meurtre, et que du coup la solution serait la vidéosurveillance, la fermeture aux gens qui ne sont pas des étudiants, et ainsi de nier toute relation de domination qui peut exister à l'intérieur de la UNAM entre les professeurs, entre les élèves, et toute agression ou harcèlement sexuel. Donc ça, c'est assez intéressant. Et il y a aussi les déclarations de la police qui permettent de culpabiliser la victime, en fait, de finalement, si elle est morte, c'est un peu sa faute, et un peu donc culpabiliser son mode de vie. À ça, il y a une réponse sur les réseaux sociaux d'un hashtag qui dit « si mes matan », donc « si on me tue », où les femmes ont essayé de montrer qu'est-ce que dirait, en fait, qu'est-ce que la police ou qu'est-ce que la société dirait à leur mort. Donc beaucoup de trucs sympas, genre elle utilisait des jupes courtes, elle sortait toute seule de nuit, elle était lesbienne, ça c'est déjà un truc en soi. Enfin, que des trucs super joyeux auxquels il y a aussi un peu des critiques du mouvement féministe. juste en disant que c'était peut-être mieux d'appeler à l'autodéfense en disant qu'on n'allait pas nous tuer, en fait, que ça serait quand même plus sympa. Et parce que faut quand même resituer un peu le contexte du Mexique, qui est d'un contexte de violence générale, violence de genre, et donc pour le fait d'être femme, hyper fort. Et si on donne un chiffre, ça serait qu'il y a 7 féminicides par jour au Mexique.
Donc 7 meurtres de femmes par jour.
Et si on fait, du coup, on a fait un peu des recherches. En France, il y a une femme qui est assassinée tous les 3 jours sous les coups, enfin, de violences conjugales, donc ce qui est déjà un chiffre vachement sympa.
T'as déjà un beau score. Hein.
Ouais, mais le Mexique nous bat.
Après, vraiment. Voilà, le féminicide regroupe pas seulement la violence conjugale, mais enfin voilà tout. Tout ce qu'est être tué après s'être fait violer, enfin voilà, plein de trucs sympas dont je ne veux pas trop m'étendre. Je vais plutôt essayer de parler des mobilisations qu'il y a eu suite à ça. Donc il y a eu d'abord une réaction à l'université, en fait, pas mal de collectifs féministes qui ont fait des assemblées dans plusieurs facultés de la UNAM. Donc le mouvement étudiant qui essaye de se réapproprier un peu ce genre de questions, qui est quand même hyper important. Il y a aussi au Mexique depuis l'année dernière, depuis 2016, donc une manif qui a été créée seulement, enfin le 24 avril, contre les violences machistes. Donc la première a été l'année dernière, il y en a une cette année, donc qui est quand même pas mal d'actualité. Et un dernier mouvement que j'aimerais citer, qui est celle des mères de filles disparues ou assassinées. Donc celle de filles assassinées, en général, elles essayent de faire justice. J'aimerais juste dire l'exemple de Elinia Buendia, qui est une mère dont la fille a été assassinée par son mari, qui fait partie de la police. Du coup, forcément, lui, il a dit que c'était le suicide, et il n'y a eu absolument aucune enquête, ni rien. Donc on salue son courage, et on salue le courage aussi de toutes celles qui sont disparues, et dont la police, quand elles viennent même porter plainte, lui disent « Oh, elle est partie avec son copain », enfin, tu vois, même pas, aucune recherche, quoi. Donc là, il y a une... Il y a une alliance que j'ai l'impression qui est en train de se créer autour de ces différentes choses. Et il y a donc l'appel donc de replanter des croix. Donc en fait, la symbolique, c'est d'essayer de planter des croix dans le canal ou les canaux, je ne sais pas si ça dit.
Les canaux. Condamnés au Mexique.
Où sont jetés les corps des femmes assassinées. Donc l'idée, c'est de mettre des croix pour visibiliser, en fait, et essayer de faire...
Le nombre de morts.
Voilà, le nombre de mortes, et d'essayer de battre visibilité ce phénomène qui, sinon, comme c'est souvent quand même dans la sphère familiale que ça se passe, reste assez...
Silencieux.
Silencieux, merci.
Et ben du coup, vaste chantier, j'imagine. On va peut-être passer tout de suite à la mobilisation à San Quintín, les travailleurs agricoles.
Ouais.
Donc on a une traduction simultanée. Hein.
Bon, salut à tout le monde.
Salut.
Félicitations à la Radio Canut pour les 41 de lutte.
Ouais.
Mais je ne parle pas français. Donc, merci beaucoup pour les traductions.
Merci d'être là.
Yo les voy a hablar un poco de la... compartir la experiencia de una de las luchas más importantes hoy en día en México.
Moi, je vais partager la lutte d'une des expériences des plus importantes en ce moment au Mexique.
Que es la lucha de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín.
Qui est celle des travailleurs agricoles du Valle de San Quintín.
Para ubicarnos, el Valle de San Quintín está en el estado de Baja California, que está al norte de México, casi con la frontera con Estados Unidos.
Pour nous situer un peu, donc le Valle de San Quintín, c'est dans l'état de Basse Californie, au nord, juste à côté de la frontière avec les États-Unis.
Y estas, los trabajadores de San Quintín, hace algunas décadas fueron desplazados del sur de México. Son en su mayoría grupos indígenas y partieron al norte de México para buscar trabajo y mejores condiciones de vida.
La majorité des travailleurs de San Quintín sont des travailleurs du sud du pays, en général indigènes, qui ont émigré au nord pour avoir des opportunités de travail.
Y bueno, pues encontraron trabajo, pero no encontraron mejores condiciones de vida. En San Quintín se ubica la empresa transnacional Driscoll's, que es la empresa transnacional más importante que produce frutas rojas.
Donc, les Quand ils ont immigré, ils ont trouvé du travail, mais ils n'ont pas trouvé des meilleures conditions de vie. Parce que, donc, ils ont immigré là-bas. Là-bas, il y a une entreprise transnationale qui s'appelle Driscoll's et qui produit surtout des fruits rouges.
Y bueno, que lleva a cabo una hiperexplotación de los trabajadores con una acumulación enorme de capitales, con condiciones muy similares al México pre-revolucionario.
Et donc qui est connu pour une grande exploitation de ces travailleurs et qui sont en condition de semi-esclavage et
les conditions antérieures à celui de la révolution mexicaine.
Et qui permettent une accumulation du capital énorme. Oui.
Bueno, cuando platicamos con los trabajadores, nos comentan que algunas, para resumir, por ejemplo, cuando ellos empiezan su jornada a las 3 de la mañana, se levantan muy temprano en sus casas. À las 3 de la mañana.
Donc il nous donne un exemple des conditions de vie d'ouvriers et d'ouvrières agricoles. Donc que les femmes par exemple se lèvent à 3h30 du matin pour préparer la nourriture pour leur famille, pour que les hommes surtout et les enfants puissent aller travailler dans les champs.
Y tienen que recorrer enormes distancias a pied porque no hay transporte público.
Il n'y a pas de transport public, donc ils font les distances à pied.
En ese trayecto muchas veces las mujeres sufren violaciones sexuales.
Donc dans ces trajets donc à pied il y a beaucoup de viols en fait.
Y bueno, una vez que llegan al campo, los patrones dicen si van a trabajar o no.
Donc quand ils arrivent dans les champs, les patrons leur disent s'ils peuvent travailler ce jour-là ou pas.
Y bueno, ya en el campo podemos encontrar trabajo infantil, hay mujeres embarazadas también trabajando, hay adultos mayores trabajando.
Donc dans ces champs, il y a du travail de femmes enceintes, il y a du travail des enfants, de personnes âgées jusqu'à 80 ans.
Y además están expuestos a agroquímicos todo el tiempo sin ningún tipo de equipo.
Ils sont
exposés à des produits chimiques tout le temps, quoi, des pesticides, j'imagine.
Y voilà. C'est ça. Y bueno, aquí está lo interesante porque para que nos demos una idea, a ellos les pagan, no hay un salario fijo, a ellos les pagan según lo que producen. Para que nos demos una idea, la caja de fresas, por ejemplo, se las pagan a 1 euro. Y esta caja se vende a 25 euros en tiendas como Walmart en las ciudades.
Donc il n'y a pas de salaire fixe, mais ils sont payés selon la production. Mais pour se faire un peu une idée, une caisse de fraises est payée environ 1 euro au travailleur et revendue dans des supermarchés comme Walmart 25 euros.
Ça fait une belle plus-value, ma foi.
Hyper plus-value. Bueno, y después de muchos años de vivir bajo estas condiciones que muchos han definido en México como un trabajo esclavo sin cadenas.
Donc après avoir vécu beaucoup d'années avec cette expérience de conditions de vie qui est plutôt de conditions d'esclaves sans chaîne.
Los trabajadores agrícolas de San Quintín han decidido tomar la rienda de sus vidas y organizarse.
Ils ont décidé de s'organiser.
Entonces, en 2015, 80.000 jornaleros se fueron a huelga, dejaron de trabajar, dejaron las herramientas y tomaron las calles.
Donc en 2015, il y a quand même une grève de 80.000 travailleurs qui ont pris la rue.
Y formaron el Sindicato Independiente Nacional y Democrático de Jornaleros del Valle de San Quintín.
Ont formé le Syndicat National Démocratique
Indépendant
des travailleurs
de la Vallée de San Quintín.
Merci.
Esa fue la primera victoria de los jornaleros de San Quintín. Además, ahora el Estado, el gobierno, reconoce a este sindicato.
Donc ça a été la première victoire des travailleurs et ils ont réussi à se faire reconnaître comme syndicat par l'État.
Pero bueno, la lucha ha continuado. En marzo pasado llevaron a cabo una caravana que fue desde el norte de México con Estados Unidos hasta la Ciudad de México.
Mais la lutte continue, donc ils ont organisé une caravane qui est partie depuis les États-Unis jusqu'à la ville de Mexico.
En su trayectoria formaron distintas secciones de su sindicato con los en México hay 2 millones de jornaleros.
Donc ils ont réussi à former plusieurs sections donc de leur syndicat, puisque au Mexique, il y a quand même plus de 2 millions de travailleurs agricoles.
Donc journaliers, pardon. Tout le long du chemin, ils ont mobilisé des gens.
Oui. Y en esta caravana también lograron articularse con otras luchas, como con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Ils ont aussi articulé aussi leur lutte avec les pères et mères de famille de Ayotzinapa, donc les 43 disparus, si vous en avez entendu parler.
Ouais, des étudiants qui avaient disparu il y a deux ans.
Oui. En 2015. Y bueno, también lograron la articulación con muchos sindicatos de la Ciudad de México.
Y aussi la articulación avec beaucoup de syndicats de la ville du Mexique.
La ville de México.
Tantos años, ¿no?
Je fais ce que je peux.
C'est difficile, la traduction simultanée.
Et bueno, hablamos con los jornaleros, con unos compañeros de San Quintín, antes de venir a la Radio Canut. Y bueno, nos invitan a que continuemos con el boicot a la empresa transnacional Driscoll's. No sabemos si Driscoll's opera en Francia, pero si sí, pues nos invitan al boicot.
Donc, il a parlé avec des travailleurs juste avant de venir à l'émission et qui nous invite aussi à suivre un peu qu'est-ce qui se passe et au boycott de l'entreprise Driscoll. Donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé en France, en tout cas aux États-Unis,
de distributeurs. Mais on va regarder ça.
Voilà, exactement.
Et bueno, le boycott est hasta que la empresa transnacional acepte firmar un contrato colectivo con los trabajadores.
Donc le boycott, c'est jusqu'à ce que l'entreprise transnationale accepte de signer des contrats collectifs.
Oui, parce que aussi là, ce que nous expliquait Ivan, c'est que c'est vraiment des journaliers, c'est-à-dire que des fois ils parcourent effectivement ces dizaines de kilomètres qui les séparent de leur lieu de travail pour s'entendre dire, j'imagine selon les conditions climatiques, selon l'état de la récolte, pour s'entendre dire qu'ils vont pas travailler aujourd'hui. Effectivement, c'est des conditions de travail quasiment féodales, quoi.
Du coup, oui, tu avais des revendications immédiates, effectivement, la mise en place d'une convention collective.
Il y avait une journée de 8 heures, par exemple, avoir la sécurité sociale, le harcèlement sexuel, non au travail des enfants, et des prestations sociales, quoi, en général, ça c'est les revendications immédiates.
C'est-à-dire des conditions de vie décentes, quoi, pas uniquement permettre la reproduction de la force du travail juste pour le lendemain, mais peut-être un
petit peu plus.
Ouais.
Algo más.
Y bueno, pues también pues decir que es un caso que parece excepcional por la gravedad del asunto. Es muy grave las condiciones bajo las que trabajan, pero no es un caso excepcional, es digamos la regla común del capitalismo en México. Cómo funciona en México, así funciona.
Que dire que c'est pas seulement un cas isolé, en fait. Enfin, on pourrait croire pour le niveau d'exploitation que c'est un peu exceptionnel, mais en fait non, que c'est un peu la règle. On peut penser justement à tous les ouvriers agricoles. J'avais pensé à ce terme parce que c'était pas, enfin, ils sont pas propriétaires de leur terre, en fait. Ils sont ni propriétaires de la terre ni des moyens de production, en fait. Ils sont vraiment juste main d'œuvre et que c'est pas un cas exceptionnel, quoi.
C'est le fonctionnement normal et systémique du capitalisme au Mexique. En tout cas, c'est la forme qu'il prend de manière systématique.
Sí, en un país donde se necesitan 22 horas de trabajo para poder comprar los alimentos de la canasta básica. 22 horas.
Donc, au Mexique, enfin, du coup, il faut 22 heures de travail pour pouvoir acheter
les nourritures nécessaires
pour pouvoir survivre.
Voilà. Ce qui fait beaucoup, hein, en une journée.
Ouais, c'est quand même.
Ça laisse pas le temps pour beaucoup dormir.
Ni se faire à manger avec les aliments.
Y bueno, los jornaleros de San Quintín saludan la lucha, les mandan saludos hasta Francia, y también las juntas defensivas universitarias saludan la lucha que se lleva aquí en Francia, en una situación tan difícil como hoy, también aquí la lucha que se libra en Radio Canut. Muchos saludos.
Et maintenant, du coup, ils remercient la lutte en France, enfin, toutes ils encouragent toutes les luttes en France.
Dans un climat difficile. Ouais.
Voilà, dans un contexte un peu compliqué. Et voilà. Et nosotros también mandamos saludos a los compañeros de ahí de San Quintín y también de las juntas defensivas universitarias. Oui. Parce que Ivan, il fait partie de... Donc je disais que nous aussi, on saluait, on les saluait. Il fait partie d'un collectif qui s'appelle les...
La gente,
c'est un peu bizarre en français, mais de défense universitaire, qui est en quelque sorte une forme de groupe politique étudiant
révolutionnaire
à Mexico, dans la capitale. Eh bien, merci beaucoup d'être venu, Ivan et Nat.
Merci de nous avoir invités.
Merci.
Et de nous avoir un peu, éclairci la situation des luttes au Mexique et aussi des conditions de l'exploitation capitaliste et les conditions pour les meufs, qui est un gros combat aussi au Mexique, je crois. Et du coup, on passe tout de suite à l'agenda.
Et pour l'agenda, on va parler de ce qui se passe déjà dès ce soir. Qu'est-ce que quelqu'un veut nous faire un petit retour rapide là-dessus ?
Car en ce moment même, alors que nous vous parlons à la guillotière...
Un événement exceptionnel, du jamais vu. Donc il y a eu
un
football et probablement une partie de pétanque organisée. Alors, l'idée était de faire un événement cet après-midi et ce soir pour aussi mobiliser à la fois pour le Front Social le 19 juin, on en a déjà parlé, se mobiliser dès maintenant contre la loi travail et le reste. Ça permettait aussi de relayer un certain nombre d'informations dont on va parler là, après. Mais du coup, ce soir, là, à partir de maintenant, place Mazagran, si vous ne savez pas quoi faire, allez place Mazagran. Il y a une cantine sauvage à prix libre. Il y aura également une projection d'un film documentaire gratuite et le moyen de se croiser, se rencontrer, discuter, boire un coup et de parler des luttes à venir ces jours-ci, ces mois-ci, parce qu'on va en avoir grand besoin. Donc voilà pour ce qu'était cette journée, et elle n'est pas terminée.
Vous pourrez tenter de marquer des coups francs avec une boule de pétanque.
Et c'est parce qu'on nous a reproché de ne pas faire assez de blagues ce soir, donc merci.
Et pendant ce temps-là, à la guillotière.
On tente le tout pour le tout sur les dernières minutes de l'émission.
Et donc, demain, il y a également un rassemblement qui le fait.
À 16h30, oui, il y a beaucoup de choses.
Non, à 13h30.
Ah, c'est 16h30 qui est annoncé sur le web, on va falloir.
C'est mardi rassemblement à 13h30,
c'est sûr.
TGI.
Ah, ben je veux bien que ça soit sûr, mais c'est... on va me faire des modifs adéquates. Mais ouais, donc c'est 13h30 appelé au TGI, donc.
Oui, en soutien au camarade dont je parlais tout à l'heure, qui s'est fait arrêter vendredi à la manif contre le GUD, contre le squat du GUD. Voilà, il faut être nombreux, c'est une répression politique, qu'on le dira jamais assez. Et donc il faut avoir une réponse politique à la hauteur.
Il faut que notre pote sorte de la tôle.
Et voilà.
Ça c'est sûr.
Il va pas rester là-bas.
Non, c'est mort. Et
mercredi à 18h à la Bourse du Travail.
Attention, on va vous faire un petit retour en arrière. Mardi, il y a plein de choses. Donc une fois que le camarade sera libéré, on espère aller tous ensemble à la présentation du livre de Rat de Charge entre un néant et un autre, qui est un bouquin, en fait, une compile d'un fanzine qui est paru à l'époque et qui a été mis en place les bonnes feuilles par une édition lyonnaise, l'édition des Mondes Affaires. Donc c'est un débat qui démarre à 19h à la librairie Terre des Livres. Et une fois qu'on aura fini ce débat, on pourra tous ensemble écouter une nouvelle émission sur France Inter, mais non, sur Radio Canu, qui fait par le CRAP, qui est donc une émission qui a pour but de décoloniser les esprits. Et on souhaite bon courage au cas où.
Décoloniser les esprits.
C'est ça. Décoloniser les esprits,
d'accord,
oui. Ouais. Oui, pas de coloniser les esprits, oui.
Non, mais c'était juste pour être sûr.
Et donc, oui, dans une émission d'onde sur la question en décoloniale, et qui, donc, on souhaite un très bon courage, un très grand succès à cette émission et aux copains et copines qui vont animer. Et bienvenue parmi nous. Alors, donc, on va passer au mercredi 7.
Mercredi 7, qu'y a-t-il à la Bourse du Travail ?
À la Bourse du Travail, peut-être. Ah si, une réunion publique.
Oui,
donc, à l'appel, une réunion publique qui va. Quelqu'un veut le faire ?
Oui, une réunion publique en fait pour appeler à une manif le 19 juin. C'est une initiative qui vient de Paris, qui s'appelle le Front Social, qui est notamment à l'initiative de la CGT Infocom et qui,
et si j'étais publiciste, c'est Sudpost
qui essaye de s'organiser à la base
dès maintenant
contre la loi travail, les ordonnances de Macron, et parce que ce qu'on va se prendre dans la gueule nécessite une riposte immédiate et préventive.
Et si vous faites très vite, vous pourrez courir au CEDRA pour assister à une présentation publique d'une nouvelle mutuelle qui se met en place par des camarades et qui
est en place depuis 2014.
Oui, pardon.
Et c'est nouveau quand même si tu regardes sur le siècle.
Sur l'histoire de la mutuelle, c'est plutôt récent. Et voilà. Et après, vous pouvez redescendre à l'atelier des Canuards pour un repas contre les violences policières en soutien au comité Vérité et Justice Montmédy.
Vendredi. Il y a toujours besoin de thunes, on le rappelle, parce qu'il y a des frais d'avocat extrêmement importants et sûrement des amendes à venir. Il faut devoir donner de la thune, il y en a besoin beaucoup.
Vendredi soir, donc 18h, place des Jacobins. Place des Jacobins, nouveau rassemblement contre le bastion social. Vous savez, ce fameux squat des fascistes lyonnais, le GUD, ouvert uniquement aux Français avec des relents, plus que des relents réactionnaires racistes, xénophobes. Il ne faut pas les laisser passer. On ne leur laisse pas avoir une dynamique de squat raciste. Donc vendredi 18h, place des Jacobins.
Et venez ensuite, comme vous êtes, mais sans pétard.
Oui, mais pas de couteau non plus. Et à partir de 19h.